régulièrement de nouvelles marques horlogères fleurissent ici et là. L'arc jurassien, berceau de l'horlogerie, n'échappe pas à cette logique. Ainsi, en 2017, une nouvelle marque de montres est née à Saint-Imier. À l'origine du projet, un entrepreneur avec plus de 30 ans d'expérience dans le milieu. Mon invité a toujours voulu faire quelque chose de ses mains, de A à Z. Impulsif, il ne se pose pas des milliers de questions avant de se lancer. Il fonce. Au-delà de sa passion pour l'horlogerie, il voue aussi un très grand respect à la nature, ou plutôt à la planète mère, comme il l'appelle. Cette philosophie, il l'applique dans ses montres, au design épuré. Mais attention, il n'aime pas le mot d'écolo, car trop extrême. François Aubry, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Anastasia Lirti.
François Aubry, vous êtes le directeur et fondateur des montres François Aubry, votre marque éponyme. Raison de plus pour qu'on s'intéresse à vous. L'horlogerie s'entremêle à vos souvenirs d'enfant. Votre père était horloger et votre mère a aussi travaillé dans le domaine. Mais vous, vous souhaitiez travailler sur les chantiers navals. L'horlogerie ne vous attirait pas à l'époque ?
Si, ça m'a toujours attiré. Simplement, c'était pas l'horlogerie, c'était la bijouterie-joaillerie. Et puis, pourquoi ? Parce qu'on pouvait justement faire de A à Z quelque chose de ses mains. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait être réalisé par apprentissage. Je croyais que c'était dans une école qu'il fallait, comme l'école d'art à Chaux-de-Fonds. Et puis... Je me sentais pas au niveau dessin, j'avais pas développé assez l'art du dessin. Et puis mon grand-papa maternel cette fois, qui était charpentier, et puis qui venait nous aider à la maison, on a construit une cabane de jardin et tout ça. Ça m'a un petit peu aussi titillé, parce que le fait une charpente, on peut pas la réaliser complètement tout seul, mais j'ai décidé à ce moment-là de plutôt m'intéresser au métier d'ébéniste. Parce que j'ai fait une expérience à 14 ans. Un copain m'a invité et puis on a allé tirer quelques bords sur le lac de Châtel, sur un dériveur. Et puis là, j'ai été Ça m'a vraiment intéressé et puis après j'ai développé l'intérêt pour les bateaux et puis je me suis dit tiens pourquoi pas faire charpentier de marine, mais le problème c'est que dans nos montagnes il n'y a pas beaucoup de chantiers navals. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé dans l'ébénisterie.
Mais vous avez donc fini par faire un apprentissage de bijoutier joaillier. Vous avez acquis de l'expérience à Genève, dans la haute joaillerie, puis retour dans les montagnes neuchâteloises pour parfaire vos connaissances dans l'horlogerie. Racontez-nous cette expérience.
Alors, mon retour dans les montagnes neuchâteloises, c'était au sein d'une entreprise qui faisait... d'une part la fabrication de boîtiers de montres et d'autre part de la bijouterie. En tant que bijoutier joaillier, je me suis occupé, j'ai été employé à la bijouterie, à l'atelier de bijouterie, et puis j'ai décidé tout seul de faire un prototype de boîte de montre. Et puis j'ai pris c'était durant les vacances de Noël, j'étais seul dans l'entreprise, j'ai réalisé ce proto. Et puis de fil en aiguille, je suis venu à fabriquer des boîtes de montre, des boîtiers de boîtes de montre.
Alors à 25 ans seulement, vous vous lancez en indépendant. Est-ce qu'il avait déjà là la volonté de créer votre propre marque de montre ?
À cette époque-là, non, pas du tout. C'était l'envie d'indépendance, de travailler un petit peu comme je voulais. Le but, c'était à la limite travailler la nuit et puis vivre différemment le jour, c'est-à-dire en pratiquant des activités sportives. Mais en finalité, je crois que j'ai travaillé la nuit et le jour. Parce que quand on démarre une activité indépendante, c'est on compte pas ses heures, quoi.
En 2017, il y a 2 ans, vous lancez les montres François Aubry. Vous êtes quelqu'un d'impulsif, mais une telle aventure, est-ce que ça demande quand même de la réflexion ?
La réflexion, j'ai l'impression que je l'ai fait pendant ce projet et non au départ. C'est vrai qu'on est obligé quand même de réfléchir à ce qu'on fait, mais je pense que si on réfléchit trop avant, on le fera jamais.
Alors, vous avez lancé une première collection intitulée 23-27, une production 100% suisse. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de pousser le Swiss Made à l'extrême ?
Simplement parce qu'à l'époque, on parlait justement d'augmenter le Swiss Made de 50% à 60%, ce qui a été fait maintenant. Et puis, je me suis dit simplement, mais pourquoi en rester là? Pourquoi se limiter aux 60%? J'ai donc visé le 100%. Et en plus de ça, le régional, puisque c'est une montre qui est entièrement réalisée et dont les fournitures sont achetées uniquement dans un rectangle de 40 sur 45 kilomètres de Chaux-de-Fonds à Grange et de Neuchâtel à Courgenay. Ça a été un challenge. Et puis après, c'est presque amusement que j'ai essayé de tout réaliser dans ce rectangle, de me procurer tout dans ce rectangle. Par la suite, j'ai même fait réaliser l'étui de la montre, qui est un globe en aluminium éloxé. Donc j'ai poussé vraiment jusqu'à l'extrême limite. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un coût.
Tout à fait. Les montres coûtent d'ailleurs entre 3 et 4 000 francs.
Voilà, c'est ça.
Et puis, ce 23-27, à quoi fait-il référence ?
Alors, le 23-27, c'est c'est un peu une numérologie qui a toujours tourné autour de moi. Et puis, je me suis rendu compte que 23-27 degrés, c'était l'axe de rotation de notre planète, l'axe nord-sud. C'est pour ça qu'on a les saisons. Et puis, j'ai axé justement de 23-27 degrés le cadran ainsi que la couronne. Et maintenant, c'est un petit peu mon image. Sur toutes mes montres, je vais essayer de garder cet angle, même si c'est parfois assez compliqué par rapport au mouvement, par rapport aux contraintes des mouvements. Je vais essayer de garder toujours cet angle de 23-27 degrés. Ça serait un peu ma marque de fabrique, quoi.
Une deuxième collection est en cours, on en parle tout à l'heure. À présent, nous allons nous rendre dans vos locaux à Saint-Imier où vous employez 5 personnes en compagnie de Nadia.
Sortie de boîte.
Bonjour.
Bonjour Nadia.
Où est-ce qu'on est aujourd'hui ici ?
Alors vous êtes dans les bureaux de François Aubry, la marque horlogère. Et on va faire un petit tour du propriétaire.
Volontiers, je vous suis.
Alors ici, on arrive dans le secrétariat et puis la partie marketing et communication. C'est ici que la communication externe sur Instagram, Facebook et les publicités sont créées et sont diffusées.
Et puisque vous parlez d'Instagram, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important en 2019 de pouvoir communiquer sur ces plateformes-là.
Étant une marque jeune et dynamique et on veut vraiment se développer avec l'ère du e-commerce, c'est une manière fondamentale en fait de communiquer avec nos potentiels clients. Ici, chez François Aubry, en fait, on s'occupe tout du design, la conception, l'étude technique, le contrôle, la gestion de l'emboîtage. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Ici, on arrive dans l'atelier de visitage. Il y a le visitage contrôle d'entrée, en fait. C'est quand on reçoit des pièces des fournisseurs externes, où c'est qu'on contrôle vraiment les pièces. Ensuite, si les pièces sont bonnes, on les envoie à l'emboîtage qui se fait également ici dans cet atelier. Et l'horloger va procéder au test d'étanchéité qu'on peut faire aussi ici. Et ensuite, une fois que la pièce est emboîtée, on la recontrôle. Ensuite, on fait le montage des différents bracelets selon les besoins du client, en fait. Ensuite, le visitage final, puis le conditionnement de la montre. Et ensuite, on procède à la livraison pour le client.
Moi, c'est Reynald Bourquin. Je suis responsable de fabrication. Sur ce projet, mon rôle, c'était de réaliser les prototypes de la montre, donc de faire la programmation sur ordinateur, ensuite de les passer mes programmes sur les machines et d'usiner les prototypes pour justement ce projet de la planète bleue. Nous sommes devant l'ordinateur où nous faisons la conception donc de la montre. C'est là que nous faisons tout pour l'emboîtage, donc que le mouvement puisse passer dedans, que les glaces se chassent bien pour garantir une bonne étanchéité. C'est là aussi qu'on voit les volumes, si la pièce va être trop grande, si elle va être trop petite, si on va retrouver des problèmes lors de l'usinage ou lors de la fabrication en tant que telle. Et puis c'est là-dessus justement que je programme ensuite les pièces pour les usiner après sur des machines CNC.
Donc c'est intéressant, c'est de voir aussi que le programme va calculer exactement les dimensions de chaque pièce pour qu'elle puisse s'emboîter finalement parfaitement.
Exactement ça. C'est pour ça que ce programme est bien, parce qu'on peut vraiment se rendre compte des volumes, et puis après, quand on fait notre programme dessus, on sait exactement ce que l'outil va faire, comment la pièce va être usinée et comment elle va sortir d'usinage. Après, c'est qu'une question de réglage aussi sur les machines, bien sûr.
Aujourd'hui, justement, dans ce monde, avec beaucoup de concurrents dans le monde horloger en Suisse, avec beaucoup de nouveaux clients, mais des clients différents, on l'a dit, qui sont plus jeunes, qui consomment de manière différente, est-ce que c'est important de se démarquer comme vous le faites?
Oui, je pense qu'on l'a vu à Baselworld, le sujet de l'écologie et de l'horlogerie est un sujet très important. Il faut en parler, il faut que les marques horlogères bougent, et je pense qu'avec... on a une petite marge d'avance, parce que ça fait une année qu'on travaille comme ça, et du coup, ben, on a été agréablement surpris que d'autres marques aussi aient approché ce sujet à Baselworld, et du coup, on est vraiment dans l'air du temps, et on a un petit coup d'avance pour le coup, donc on est très content à ce niveau-là.
Sortie de boîte.
François Aubry, alors que de nombreuses marques boudent Baselworld, vous y êtes rendu cette année, non pas comme exposant, mais avec un collectif de marques indépendantes. Comment s'est déroulée cette expérience pour vous?
C'était stressant, puisque c'est au dernier moment qu'on a eu cette opportunité. Mais après, une fois qu'on est à l'intérieur, avec les en compagnie de ces gens qui ont déjà participé, c'est enrichissant, car ils nous aident vraiment beaucoup ils nous aident à justement pour le Kickstarter, des choses comme ça. Ils nous expliquent ils nous font part de leur expérience, et puis pour ça, ça a été très 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 enrichissant.
Kickstarter, on va y revenir bientôt. Vous pensez y retourner l'année prochaine à Baselworld?
Je pense que oui, ça a été positif. Donc maintenant que les personnes ont l'habitude de nous voir, il faut y rester.
Alors, on a aussi entendu dans le reportage votre employé du secteur marketing et communication dire, voilà, il faut qu'on parle du climat, de l'environnement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou c'est aussi un argument marketing?
Non, ça me tient vraiment à cœur. Quand je vois ce qu'on fait à notre planète, on est en train de la piller. D'ailleurs, on vit hypothétiquement, hein, à partir du mois de mars, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il faut faire attention, il faut y prendre soin de notre planète. Donc c'est peut-être les petits ruisseaux qu'il faut les grandes rivières, mais c'est important, c'est très important pour moi.
Vous avez toujours été préoccupé par ces questions?
Non, pas quand on est plus jeune, on est en vie, mais je pense qu'en prenant de l'âge, on prend conscience de ça, on devient plus mûr, donc c'est naturel, je pense, de prendre conscience du problème, quoi.
Cette approche respectueuse de l'environnement, elle permet en tout cas de vous distinguer. En ayant toujours cette sensibilité, vous venez de développer une deuxième collection de montres intitulée La Planète Bleue, cette fois en collaboration avec le navigateur chaudefonnier Yvan Bourgnon. Comment est né ce partenariat?
Alors, simplement, c'est... La planète bleue, on a les mêmes traceurs que la 23-27 avec la planète bleue. Et puis, en voyant une émission, je me suis rendu compte que les océans n'étaient plus aussi bleus que ça à certains endroits. Certaines fois, on nous montre des photos paradisiaques, mais il y a d'autres photos qui sont vraiment apocalyptiques, presque. Et puis, en regardant une émission avec Yvan, que je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas essayer de prendre contact avec lui, d'y exposer notre projet, et puis voir ce qu'il en sera.
Alors, vous avez donc développé des montres, et il est prévu qu'une partie des ventes soit reversée à son organisation, son association qui s'appelle The Sea Cleaners.
Exact. Donc, c'était ça un petit peu la base de la discussion. Moi, je voulais participer aussi à son association, à son au nettoyage des océans. Donc c'est ce que j'ai proposé d'y reverser quelque chose à chaque vente. Et puis il a accepté. Il a dit ben, j'aimerais bien aussi un peu mettre ma patte à ton projet. Et puis c'est comme ça qu'on a collaboré. Mais ça fait une année qu'on est sur le projet. C'est quand même du long terme,
Il a donc un bateau qui a pour but de collecter les plastiques des océans. Si tout va bien, le mental nom du bateau devrait être prêt pour sa première mission en 2023. Mais revenons-en aux montres. Pour que la production de cette montre, la Planète Bleue, soit lancée, elle n'a pas encore démarré. Ça dépend du financement. Pour réunir les fonds nécessaires, vous avez lancé une campagne de financement participatif. Combien d'argent souhaitez-vous récolter et en combien de temps ?
Alors, le but, c'est 55 000 francs en 30 jours. Donc, ça se terminera à la fin du mois de mai. C'est pas facile, mais on va y arriver.
Et est-ce qu'en parallèle, la recherche d'investisseurs au sens classique se fait toujours ?
Tout à fait. Il y a des personnes qui sont intéressées à participer. Il y a des contacts qui sont pris. Maintenant, il faut voir. C'est un tout. Il faut que tout s'en mêle. Et puis, vienne dans l'engrenage et puis se déroule comme il faut.
Alors, cette montre-là, elle sera moins chère. Le prix se situe aux alentours de 700 francs. Par conséquent, contrairement à la première, la 23-27, tous les composants ne viennent pas de Suisse.
Non, on a dû étendre, écarter ce rectangle justement qui nous était cher, mais pour être compétitif et rester dans l'entrée de gamme, on a choisi d'utiliser des fournisseurs qui se situent plus lointains. Simplement maintenant, justement par ce fait-là, on aura un impact un peu plus important au niveau du carbone de notre planète. Donc c'est pour ça que il faut redonner quelque chose par l'association Cyclinaire. C'est le but de cette collection.
Une compensation.
Voilà.
Il est temps pour nous d'accueillir la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
On parle de Tavanwatch aujourd'hui, une entreprise qui est née en 1891 et qui était une des plus importantes manufactures horlogères du monde dans les années 1915-1920. Mais elle a connu des difficultés en 1966. Elle est devenue Tavan & Bosch, qui a fabriqué des mouvements jusqu'en 1982. Il y a 12 ans, Florine Niculescu et son épouse ont racheté Tavanwatch. La marque compte sur un produit original, unique pour se développer. C'est une montre-ceinture, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, Florine Niculescu.
C'est une montre qui a une histoire incroyable. Tavan a été contacté par le prince de Galles, qui est devenu roi Édouard VIII. Il était passionné de golf et il ne pouvait pas porter une montre au poignet et il ne voulait pas la porter non plus comme montre de poche. Donc Tavan lui a proposé de lui faire une montre ceinture parce que quand on joue au golf, il y a une chose qu'on a toujours avec soi, c'est une ceinture.
Il y a une autre histoire de roi pour cette montre ceinture. Le dernier roi d'Italie, Umberto II, en avait acheté une, paraît-il, pour aller skier. Récemment, l'entreprise Tavanwatch a donc remis sa montre ceinture au goût du jour en s'inspirant d'un autre produit phare qu'elle fabriquait à l'époque.
Tavan avait également un produit féminin vraiment très sympa qui s'appelait la Captive. Ça veut dire que c'était une purse watch, c'était une montre que les dames cachaient entre guillemets dans leur sac à main. C'était un produit avec deux poussoirs sur chaque côté et la montre se relevait et la dame, elle pouvait lire l'heure et puis après, elle pouvait la ranger et c'est pour ça qu'on l'appelait la captive.
Alors, comment cette montre captive a-t-elle inspiré la nouvelle version de la montre ceinture ? Florine Niculescu nous fait des révélations.
Le module montre peut se détacher de l'ensemble de la ceinture et pour rien dévoiler, parce que c'est quand même le produit phare de l'année prochaine, on pourra également le poser au poignet, on pourra également le poser sur un bureau et également on a d'autres idées, sachant que Tavan faisait également des montres pour les tableaux de bord de voiture.
Il y aura un module qui permettra de l'adapter pour la voiture.
Voilà, exactement. Et puis, il y a tout d'un coup des autres modules qui viendront remplir l'espace qui sera laissé vide dans la ceinture. Aujourd'hui, on a des, pour jouer au golf, on a besoin de montres liées par satellite. On nous donne la distance. La distance nous donne le choix du club. Donc, je vous laisse juste imaginer un tout petit peu les possibilités de développement de ce produit.
Tavan Watch a déjà présenté sa nouvelle montre ceinture, mais ce produit ne sera livré qu'à partir de la deuxième moitié de l'année. Son prix entre 5 250 et 6 000 francs selon le degré de finition.
Pile à l'heure.
François Aubry, aviez-vous connaissance de l'existence de ces montres ceintures?
Ah, pas du tout, non. C'est la première fois que j'entends ça.
Et qu'en pensez-vous?
Très bien. Il faut innover maintenant. Je pense que les montres qui ont plusieurs fonctions, c'est peut-être l'avenir maintenant. Hein, une fois au poignet, une fois à la ceinture, une fois sous le bureau, une fois sous le tableau de bord, pourquoi pas. C'est chouette.
Alors, on l'a dit en introduction, vous êtes bijoutier, joaillier de formation. Est-ce que vous pourriez développer à l'avenir une ligne de bijoux François Aubry?
Il faut déjà que les montres se vendent bien pour pouvoir réinvestir dans une nouvelle collection. Ça, c'est le but. Et puis, pourquoi pas la bijouterie? Mais c'est tellement loin maintenant que j'y pense pas franchement, non.
Ou actuellement, les montres que vous développez n'ont pas vraiment de modèle pour femmes. Est-ce que ça, c'est prévu?
C'est prévu. On y pense, on nous la demande. Mais actuellement, les dames aiment porter les grandes montres. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème pour actuellement. Mais c'est vrai qu'on y pense et on va faire ça.
On est aussi, on parle beaucoup, on est à l'heure de la montre connectée. Est-ce que vous pourriez, vous imaginez aller dans cette direction?
J'y ai pas du tout pensé. C'est un marché qui est je pense qu'il faut avoir de grands moyens pour pouvoir réaliser une montre connectée, ce que actuellement nous n'avons pas.
François Aubry, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de Sortie de boîte. Merci aussi à Yves qui était à la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible tout à l'heure sur notre site internet. La semaine prochaine, Sortie de boîte s'intéressera au financement de l'Université de Neuchâtel. Rendez-vous avec Adrien Juvet qui recevra le recteur Kylian Stoffel.
Sortie de boîte.